Cette campagne, bonjour. Dernier passage en Ariège. Tout d'abord, un coup de chapeau aux cinq jeunes femmes documentaristes qui ont créé en 2000 à Foix leur association Caméra au Point, partie d'une volonté de toucher un public éloigné de la culture et souvent en situation d'exclusion sociale. En animant des ateliers, nos réalisatrices ont inventé un média, médiason comme elles le définissent, s'appelle la télébuissonnière. Chaque mois, elles mettent en ligne des courts-métrages documentaires réalisés avec les habitants et elles diffusent les paroles d'une population sur les grands thèmes qui agitent notre société. Les films sont mis en ligne, mais ils font aussi l'objet de projections publiques. C'est leur télébrouette, comme elles l'écrivent sur le site de l'association. Le plus remarquable est que 18 ans plus tard, ce média participatif et citoyen poursuit sa route en accompagnant de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel qui se greffent parfois au projet télé-buissonnière.org pour l'adresse. Aujourd'hui, deux regards sur deux communes qui se distinguent dans la belle ruralité ariégeoise. Carla Bale, Bale comme le philosophe natif de cette commune, qui compte 800 habitants, dont 10% de demandeurs d'asile. Carla Bale, c'est aussi le village des artistes et de l'art contemporain, avec son association Rue des Arts et les 20 galeries du village. Nicolas Lorieux est notre premier invité. Son association est également présentée dans les pages numériques de la vie sous la plume de notre confrère Laurent Gibowski. Seconde commune, Les Attes-sur-Lèze, où on rejoindra Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros tout à l'heure, et une dynamique de fond au profit des relations intergénérationnelles. Moment festif des partages entre jeunes et anciens, le Festival des Épouvantails. Amandine et Sertel, seconde invitée, présentera ce programme.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Nicolas Lorieux, bonjour.
Oui, bonjour.
Nicolas, administrateur culturel de l'association en rue des Arts, qui a 24 ans, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Ouais. 24 ans d'existence au Carla Bale en Ariège.
Ouais. Carla Bale de Pierre Bale, ou Pierre Bale comme on veut, le philosophe qui est né dans ce village, qui est mort en 1702, si mes souvenirs sont bons, à Rotterdam, qui a marqué son empreinte, ce village, qui a épousé une partie de son nom. Et 800 habitants, vous nous écrivez, deux musées, une vingtaine d'artistes résidents, 80 demandeurs d'asile, un foyer de vie pour adultes en situation de handicap, une école, etc., etc. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Moi, je saurais pas vous l'expliquer. Il faudrait, je pense qu'il faudrait interroger tous les acteurs du village, son maire. Il y a une énorme volonté politique aussi de redynamiser un village qui était déserté. Et voilà, et avec tout ça, je pense qu'on pourrait réussir à l'expliquer.
Oui. Et alors, parce qu'il a été déserté, on a invité, par exemple, des migrants à s'installer et des demandeurs d'asile, parce que c'est le cas. 10% de la population du village est composée de demandeurs d'asile. C'est exceptionnel.
C'est ça. Le village a été déserté très tôt, au début de l'industrie, de l'agriculture intensive. Les deux guerres mondiales ont fini d'achever le mouvement. Et il y a 30 ans, il y a une volonté politique qui s'installe avec un maire, un conseil municipal hyper dynamique, qui sont toujours là aujourd'hui, c'est Jean-Luc Courret, encore maire du village, et donc le village est en ruine, les remparts tombent, la végétation s'empare un peu des maisons, et donc quelques artistes viennent s'installer ici, dont l'un des premiers, Tristan Rat, qui expose toujours ici, qui rachète quelques maisons, et petit à petit le village, en bouche à oreille, se repeuple,
oui.
Et comme il y a tout à faire, et ben j'espère que tout a essayé d'être fait pour le mieux.
Oui. Alors, toute l'année, vous organisez des expositions et plus particulièrement l'été, un festival.
Tout à fait. Il y a 4 à 5 temps forts qui sont organisés par Rue des Arts dans l'année, plus un certain nombre d'autres interventions, des concerts, des conférences qui sont organisées par d'autres associations, d'autres acteurs. On a une exposition d'hiver qui est assez prisée, qui s'appelle les 100 cm carrés, qui est ouverte aux amateurs comme aux professionnels. Donc c'est un espèce de petit salon du tout petit format.
Oui.
C'est autour du 10 cm par 10 cm. Et il y a entre 160 et 200 artistes qui sont exposés. On a une exposition de jeunes artistes de la région, Occitanie, qu'on a envie de promouvoir, qu'on a envie de lancer un peu, à qui on a envie d'offrir une première exposition monographique. L'été, on a un festival d'art plastique où on fait venir plusieurs artistes, entre 3 et 4, artiste professionnel à minima reconnu sur le territoire français et sinon plus avec des renommées mondiales. Et voilà, après l'automne, où on essaye de faire des expositions historiques, entre guillemets, où on essaye de faire venir des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art, ou certains courants.
Oui. Et vous dites que vous proposez au public des démarches artistiques qui questionnent le réel, invitent le regard à une réflexion philosophique sur le sens de la vie. Ça veut dire qu'elles font débat, il y a des échanges avec les artistes?
Oui, tout à fait. Par exemple, là, on est en plein accrochage avec une artiste qui s'appelle Sophie Baquet. Et jeudi, par exemple, on organise une rencontre avec les bénévoles pour parler de son travail dans les deux sens, pour que l'artiste puisse s'exprimer sur ses démarches, qu'elle puisse être questionnée par les gens qui tournent autour de l'association. Mmh. Et voilà, on a des médiateurs culturels dont je fais partie pour faire le lien entre les œuvres qui sont exposées et les gens qui se posent des questions. Et les gens se posent toujours des questions, en fait, j'allais dire, sans citer à s'en poser, mais ouais. Les gens se posent toujours des questions.
Oui, très bien. Bravo. Et le festival d'été, c'est juillet-août.
Tout à fait, juillet-août. C'est donc la vingtaine de lieux d'exposition dont je parlais, tous les lieux sont ouverts entre juillet et août, avec des variances pour chacun au niveau des dates, mais... voilà, j'ai oublié le fil de votre question.
Non, mais c'est bien, vous avez répondu sur la durée du festival, sur juillet et août. Allez au Carla Bay, là, vous allez être étonné par ce village. Hein. Rue des Arts, pour la page Facebook, vous allez avoir le lien, ainsi que le lien avec le site de l'association dont l'administrateur culturel est Nicolas. Merci Nicolas.
Merci beaucoup à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Avant de détailler l'excellent travail réalisé à Lézat-sur-Lèze au profit des relations intergénérationnelles, un mot sur cette commune, 2400 habitants au nord du département, et un projet d'hôtel d'entreprise qui est en cours de démarrage. Il est porté par la communauté de communes et il a pris le nom de Comet Innovation. Ce sera un lieu multifonctionnel absolument innovant. En février dernier, le ministère de la Cohésion des Territoires lançait d'ailleurs depuis cet endroit la mission nationale Travail, Coworking et Territoire, qui signe que la ruralité peut être un point d'appui à un programme d'innovation sociale et économique. Au-delà du caractère symbolique de l'annonce, je retiens que le site de l'ESAT se présente comme un tiers-lieu indispensable à l'épanouissement des entreprises locales. On lui attribue autant de fonctions que de possibilités d'émancipation, hôtel d'entreprise, comme je l'ai dit, Fab Lab, espace de travail partagé, pôle d'innovation collaborative, lieu d'apprentissage et de formation de pair à pair. Son nom de Comet laisse entendre que le pôle ne sera pas le seul point d'activité et que d'autres comètes vont émerger dans la communauté de communes. Un mot aussi sur le bâtiment qui est labellisé bientôt BEPOS, c'est-à-dire bâtiment à énergie positive, comète au pluriel-innovation.fr. Et donc nous restons au même endroit avec notre seconde invitée qui est Amandine Essertel. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Amandine, vous travaillez à Lézat-sur-Lèze depuis 7 ans, comme vous l'écrivez dans votre courrier.
Oui.
Vous êtes monitrice éducatrice dans un foyer d'hébergement et vous participez à des échanges intergénérationnels dans cette commune qui donnent lieu à des choses extraordinaires. Vous pouvez nous dire comment vous avez pu fédérer autant de, parce qu'elles sont très nombreuses, autant d'associations ou d'établissements de l'ESAT?
Alors ce projet, c'est pas moi qui en suis à l'origine, en fait, c'est la chef de service de l'IME qui a eu cette idée tout bêtement parce que dans son village de Dordogne, qui s'appelle Méral,
oui.
Dans le village de Méral, en fait, il y avait déjà un festival d'épouvantail qui existait. Et elle a été surprise, en fait, de voir à quel point cet événement pouvait fédérer la population du village, quel que soit l'âge des personnes, le milieu, le... Voilà. Donc, du coup, elle est arrivée à l'ESAT en tant que chef de service, et elle a pensé à pouvoir proposer ce type de projet. Mmh. Et du coup, elle a sollicité un peu quelques associations, dont la nôtre fait partie, et on a commencé à créer un petit collectif comme ça, où on s'est réunis pour discuter un peu de ce type de projet, comment on pouvait lui donner vie.
Ouais. Alors, il y a, vous l'avez cité avec l'exemple... Aquitain de l'Institut médico-éducatif, celui de l'ESAT qui y participe. Il y a aussi les ALAE. Alors les ALAE sont les accueils de loisirs associés à l'école. Comment vous croisez les générations et comment les enfants entrent en relation avec des personnes âgées ou adultes ou handicapées, parce que c'est le cas dans le collectif auquel vous participez?
Alors déjà, dans le projet de l'IME, il y a déjà des interactions entre les jeunes qui sont accueillis en IME et les collégiens.
Oui.
Puisque dans le cadre de la loi 2002, du coup, les enfants sont amenés à fréquenter le milieu ordinaire aussi. Donc, du coup, ces enfants se connaissent déjà. Il y a un système de parrainage, je crois, aussi qui est en place. Et puis, l'EHPAD, il est en plein cœur du village. Il s'est agrandi dernièrement. Et c'est vrai que dans son projet, l'EHPAD favorise ses échanges de par des moments de lecture, par exemple, où les enfants, enfin je crois que c'est sur des moments de lecture, enfin, les jeunes rencontrent les anciens.
Ouais.
Ils se rendent à la maison de retraite, il y a des visites de temps en temps. Ce lien était déjà créé, mais c'est vrai que le Festival des Épouvantails, lui, donne une unité en fait à ce lien-là et un but commun aux personnes. Donc du coup, les ateliers se font comme ça. Les enfants se rendent à la maison de retraite. Le déplacement est un peu plus compliqué dans l'autre sens, mais ça se fait aussi. On a travaillé avec les enfants de l'ALAE, du coup, tous les enfants qui sont en garderie le soir.
Oui.
Et là, on travaille avec l'association Histoire et Patrimoine et les Déjantés de la Lèze. C'est un club de théâtre à Les Atures-Lèze. C'est pas non plus l'objet fini qui nous importe, c'est quel travail on peut réaliser ensemble. Et toute la valeur de l'objet est là, en fait, c'est de par les rencontres. Après, c'est vrai que le dernier moment, c'est un moment festif et c'est un peu le plaisir de tous de se retrouver autour de cette déambulation.
Oui, alors parce que le Festival des Épouvantails, qui a lieu la veille de la Saint-Antoine, c'est-à-dire cette année le jeudi 7 juin, consiste à une déambulation de ces épouvantails qui sont ensuite placés à différents points du village.
C'est ça. Alors on travaille avec deux agriculteurs aussi qui du coup les placent sur des chars. Donc on fait tout le tour du village. On a un itinéraire qu'on a prédéfini en avance. Il y a les jeunes de l'IME qui ont un petit groupe qui s'appelle la Batucalaise. Donc c'est rythme brésilien, du coup, qui anime la déambulation en musique avec les percussions. Cette année, on a les Pourquoi pas nous qui nous rejoignent aussi. Donc c'est pareil, c'est une troupe de Batucada qui a été créé, alors c'est des jeunes de Muret, un groupe de Muret, et c'est avec l'association Samba Resi à Toulouse. Voilà, donc c'est une déambulation en musique.
Ouais. Et ça se termine par un grand repas, c'est presque une bande dessinée, un grand repas, un grand festin. On n'y mange pas le sanglier, mais il y a les enfants, les adultes en situation de handicap, les commerçants, les collégiens, les parents, les résidents de l'EHPAD, les villageois. Tout le monde se retrouve autour de la table.
C'est ça, c'est un banquet. C'est un banquet où chacun amène quelque chose à partager, tiré du sac. Et voilà, on continue aussi dans cet échange jusqu'au bout.
C'est un bel exemple de rendez-vous ludique et surtout interactif et intergénérationnel. À Lézat-sur-Lèze, le rendez-vous, donc, c'est le 7 juin pour ce Festival des Épouvantails de toutes les générations. Vous allez trouver un lien avec la structure qui est organisatrice de cet événement de Lézat-sur-Lèze à nos pages d'émission. Merci Amandine.
Merci à vous.
Juste avant de nous séparer, je rappelle que nous prenons toujours des infos en provenance de Seine-Saint-Denis, du Haut-Rhin, du département des Vosges et de Moselle. Merci à Étienne Bertin qui réalisait les émissions cette semaine. Merci à Joël Levert, merci aux techniciens Étienne de France Inter qui ont œuvré, comme aujourd'hui, Céline Guéribi. Nicolas Stouff, l'assisté de Yann Payret, c'est le jeu des 1000 euros. Ah, donc on revient les Lézat-sur-Lèze.